Bonjour, bienvenue à l'épisode 14 à Friend Connection. Cette fois-ci, nous sommes avec Vincent.
Allô.
Et Damien.
Salut tout le monde.
Patrick étant dans le bois très profond du Québec, donc il ne se joindra pas avec nous cette fois-ci. D'ailleurs, ça ne fait un certain temps qu'on ne l'a pas vu, fait qu'on s'ennuie un petit peu de sa présence. On va commencer rapidement avec un peu un suivi de le fameux Equifax qui s'est encore embourbé dans d'autres problèmes.
Oui, alors petite mise à jour au niveau d'Equifax avec tous les déboires et puis la couverture médiatique, bien entendu. Le président et chef de la direction a été contraint de démissionner. L'action a étrangement commencé à remonter. Toutefois, l'action de la compagnie a baissé là, en date du 18 septembre. Elle a perdu quasiment 40 % de sa valeur. C'est sûr, le 26, le PDG, M. Smith, s'est fait montrer la porte. Entre-temps, autre élément un petit peu, je pense, qui nuit à l'enquête, avant la divulgation, la CSO et le CIO ont pris une retraite un petit peu hâtive avant la divulgation de ces déboires-là. Mais bon, Equifax n'est toujours pas sorti du bois. Il reste à savoir comment les choses vont se poursuivre.
C'est fou quand même, hein, de se dire qu'un piratage informatique ou tout simplement une petite fuite de données, en tout cas, hein, on présume qu'il y a eu fuite de données, fait perdre 40% en bourse. C'est impressionnant. On se dit qu'aujourd'hui, c'est aussi devenu une sacrée arme économique de désinformation ou de manipulation d'une entreprise.
Oui, tu as raison. Puis ce fameux 40% de perte là, parce qu'il y a carrément une perte, ça s'est fait en dedans d'à peu près 20 jours, ce qui est un délai extrêmement court justement là pour une perte aussi énorme.
Mais dans ce contexte-là, c'est une des premières compagnies qui vit les affres boursiers suite à une faille, parce qu'on avait beaucoup dans les années passées des compagnies qui n'ont pas vu d'impact financier, ou est-ce que du moins boursier de leur déboire. On fait juste penser à Target, entre autres, que même les actions ont fini par monter de toute façon sans aucun lien avec l'espèce de déboire ou fuite d'informations qui a eu lieu. Là.
Oui, écoute, tu as raison, Nicolas, mais celui-là, en fait, c'est pas une contre-thèse que je fais là contre ce que tu viens de dire. Là. Sauf que j'ai l'impression que c'est une première qui est phénoménale. Puis j'ai l'impression que ça ne sera pas non plus la dernière. Equifax étant coté en bourse, on l'aurait de toute façon appris ou n'importe quel analyste aurait été en mesure de toute façon de récupérer l'information qui est publique là, ultimement. Pour la suite des choses, c'est à suivre.
Oui, mais ça, c'est intéressant, c'est que ça envoie un signal clair aux compagnies publiques que maintenant, s'ils ne font pas attention à leurs choses, ils vont avoir des impacts financiers importants et surprendre leurs hauts dirigeants, souvent qui seront payés par des actions boursières. Donc, ils vont avoir un incitatif beaucoup plus grand à ne pas ignorer les signaux d'alarme ou tous les éléments qu'ils ont faits. D'ailleurs, le président de Equifax a pointé le doigt vers un seul individu qui était supposément le responsable de la grande fuite. Ce qui est un peu déplorable, c'est que le président a juste comme pointé « Ouais, c'est juste un gars qui est responsable de l'affaire, nanana. » Fait qu'il a essayé de se déculpabiliser face, du moins dans son témoignage devant le Congrès ou le Sénat américain là, qui suivait la fameuse faille.
C'est un petit peu mon opinion personnelle, ce que je vais dire là, dans les prochaines secondes. Les compagnies de relations publiques qui accompagnent les firmes justement qui vivent des déboires. Je pense que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, tout ce qui entoure la cybersécurité, je pense que ça va devenir des spécialistes. Parce qu'avec avec la mauvaise presse, se remettre sur les rails de belle façon, malgré l'amplitude des problèmes que ça crée, ça va prendre des compagnies spécialisées, puis surtout des très beaux parleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit filon là pour ces compagnies-là là très prochainement.
Mais est-ce que ça se pourrait qu'on voit apparaître une loi comme Sarbanes-Oxley pour finalement le cyber, un cyber SOX, qui va arriver justement, qui va commencer à mettre une imputabilité beaucoup plus forte chez les gestionnaires ou les hauts dirigeants des entreprises publiques, du moins, qui vont leur faire payer durement leur inaction et leur manquement.
Ouais, c'est exactement ce qui va arriver en France au mois de mai, hein, mai 2018. Hein. Celui qui laissera fuir ou lire par des individus non autorisés, pirater ou voler, pourront se retrouver avec une amende, par exemple, pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires.
C'est assez brutal, mais dans le cas du Carbon Accès, je pense qu'il y a même des éléments pénals qui sont associés.
Oui, t'as raison. Nous autres, on a le penchant 5209 ici, je pense que c'est la C51, la C58 à l'époque, mais c'est juste que ça va pas jusqu'à des punitions pénales à ce moment-là. Ça, c'est des amendes. C'est des amendes, puis c'est les différentes autorités, dépendamment de ton secteur d'affaires, qui va entreprendre les démarches à ce moment-là. Mais on n'est pas on n'a pas joué sous le degré de sévérité avec notre réglementation ici.
Ouais, la loi C51.
Ouais, canadien.
Ouais, la loi C51, c'est votre loi antiterroriste, hein, c'est ça?
Je pense que oui. Je pense que oui.
Mais parce que je sais que dedans, il y a aussi. Parce que la C51, je crois que c'est votre loi antiterroriste. Et dedans, il y a toute une partie sur tout ce qui correspond aux communications et numériques.
Oui, effectivement. Mais je connais pas assez les aboutissants de la loi pour être en mesure de dire si comment de quelle façon on punit justement, qui on punit en fait, qui est punissable et de quelle façon, jusqu'où on peut le punir, ça j'ai aucune idée.
Dans tous les cas, les auditeurs qui sont intéressés, hein, vous tapez loi antiterroriste C-51 et vous aurez toutes les infos sur Wikipédia.
Oui, écoutez, c'est un autre petit survol. On vient de parler de nos autorités. On parle justement des autorités réglementaires aux États-Unis, la SEC. La SEC s'est trouvée un petit peu sur la sellette en septembre dernier. En fait, paraîtrait que sur l'info nuagique, il y a un serveur qui contient une archive. En fait, quand je dis une archive, c'est que la SEC a décidé d'utiliser un seul serveur pour mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une immense archive sur le système nommé Edgar qui est constituée en fait de dossiers financiers pour toutes les sociétés cotées en bourse aux États-Unis, ainsi qu'une mise à jour périodique de résultats financiers. Alors, pendant le point de presse du président de la SEC, il a énoncé deux éléments. Il ne croit pas, en fait, que ces éléments-là ont été exploités, mais si ça l'est, je vous les énumère tout de suite. Si les pirates savaient exactement sur quoi ils étaient tombés et la faille a été décelée et divulguée, en fait, lorsqu'elle a été décelée, ça faisait déjà au moins un an qu'elle était exploitée. Il a été possible pour des personnes mal intentionnées de s'enrichir avec l'information privilégiée. Et deuxième des choses, les dossiers financiers des entreprises qui étaient également déposés sur ce serveur-là, les données financières auraient pu être altérées. Donc, ça aurait pu causer de la spéculation, en fait, avec des données complètement erronées. Alors, je pense que la SEC, c'est malheureux, c'est le chien de garde des valeurs mobilières aux États-Unis. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour se sortir de là, mais s'ils veulent continuer à faire la loi, puis taper sur le doigt des autres compagnies comme Equifax, par exemple, ils vont devoir se montrer un petit peu plus assez indulgents vis-à-vis le problème qu'ils viennent de vivre et puis montrer en fait les bonnes pratiques et puis investir comme du monde pour sécuriser les données financières.
Ouais, mais on peut un peu trop downplayer la vulnérabilité en question, comme quoi étant c'est pas si pire que ça n'en a l'air ou que c'est pas si grave.
En fait, oui, tu as raison. Le premier point de presse que j'ai visionné, j'ai trouvé ça dommage un petit peu. Là, le président restait un peu évasif sur la véracité de ce que les pirates auraient pu faire. Ça n'avait pas l'air si grave que ça. Il y avait vraiment un laisser-aller là, dans la façon dont il a couvert cette histoire-là lors des premières divulgations. Mais effectivement, Je ne sais pas. J'ai pas vu d'autres suivis sur ce problème-là. Soit ils l'ont calfeutré, ils l'ont camouflé, ou ils vont avoir d'autres mauvaises nouvelles à annoncer, je ne sais pas. Assume.
Ouais, mais ça tombe toujours mal. Quand ils commencent à essayer de masquer les informations comme ils font là, ça finit toujours par virer dans un espèce de fiasco plus tard, là. Il y en a plusieurs qui sont qui vont dans ce chemin-là d'essayer de downplayer ou de réduire l'importance du problème. Au lieu de juste accepter le problème, parce que maintenant, de toute façon, faut accepter le fait que les fuites d'informations ou les failles ou tout ce qui va s'arriver va devenir de plus en plus courant et régulier pour tout le monde. Donc, je pense qu'on est mieux d'accepter le fait que oui, il y a un problème, puis de le régler, que de dire non, 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 il n'y a pas de problème, balayer en dessous du tapis, puis essayer d'avoir faire une espèce de campagne de PR qui est faussée. Puis même, à la limite, on peut regarder comme Yahoo, entre autres, qui avait annoncé, je pense, c'était quoi, c'est un milliard, je pense, de comptes qui avaient été divulgués, puis que finalement, ben, on se rend compte que Verizon vient suite à l'acquisition, d'annoncer que l'ensemble des comptes de Yahoo, finalement, ont été complètement compromis. Fait qu'on est dans un problème pire que ce qui a été énoncé. Puis comme individu, ben, on n'est pas protégé parce qu'on pensait qu'on était safe au début, on était protégé par le fait que c'était un nombre plus réduit. Puis finalement, ben, c'est l'ensemble des clients de Yahoo qui ont été compromis. Mais c'est terrible.
Ouais, surtout qu'à force de cacher, il est là le problème, c'est que, on prend l'exemple de Yahoo, t'as raison, hein, c'est d'abord, on a 200 millions qui ont été volés, et puis après 500 millions, et puis après 1 milliard, maintenant on apprend 3 milliards de données volées. Le problème, c'est que ces entreprises et ces gens ont oublié que si elles ont vraiment été volées et qu'elles se retrouvent ensuite sur les internets, qu'ils ont fait semblant de rien, le client va pas apprécier. Et il devrait se rappeler qu'aujourd'hui, les class action et les avocats sont sur les dents pour sauter sur la moindre occasion. Vaut mieux dire la vérité et expliquer ce qui a été fait pour que ça ne se recommence pas que de dire non, non, c'est un petit problème et après se prendre une avalanche de mauvaises informations. Et les clients, pour ça, ils n'ont aucune pitié maintenant.
Oui, tu as tout à fait raison. Puis ça fait penser à Pierre et le loup, hein? À force de se faire raconter, en fait, possiblement un bout de la vérité, et puis d'apprendre quelques temps plus tard qu'on avait juste une portion, de la vérité, puis on cachait d'autres informations. À un moment donné, on les croira plus sur parole. Ça va devenir, ça va devenir problématique, en fait, pour les gens qui vont subir, ce genre d'attaque-là.
Mais ça va créer une certaine forme de désensibilisation aussi, puis c'est peut-être un peu ça qui est terrible, puis on s'éloigne de notre objectif de sécurité là, à ce moment-là.
Alors c'est marrant en plus que tu parles de Pierre et le loup, hein. Moi je parle aussi, tu sais, le livre de la jungle avec le serpent. Maintenant quand je reçois un communiqué de presse d'une entreprise qui me dit il y a on a eu un petit problème, c'est pas bien grave, il me fait penser au serpent qui regarde et qui dit aie confiance, aie confiance.
Ah oh oui, bonne, belle image, belle image.
Ben, c'est excellent, c'est exactement ça. Puis en parlant de confiance, Banque nationale nous a pas eu un peu
Oui,
pris un peu au dépourvu.
écoute, oui, mon cher, écoute, c'est fabuleux. Ils ont quand même eu une belle réaction, mais ils ont fait une belle erreur de débutant. La Banque nationale a mis un formulaire web qui sert à prendre rendez-vous avec un employé à l'interne quand on a une question spécifique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que à chaque accès d'une différente personne au formulaire, le formulaire rempli de la personne précédente s'affichait sur le formulaire à remplir de la nouvelle personne qui venait d'accéder à la page web pour, en fait, rentrer ses informations. Cette personne-là a soupçonné, bon, une erreur de débutant, il a bien fait. Il a communiqué avec le client précédent pour se rendre compte qu'il parlait à la bonne personne. Donc, ses informations étaient publiées sur le web. Mais en bon samaritain, on a tout de suite communiqué avec la Banque nationale pour parler de cette faiblesse-là. Et puis, ils ont rapidement corrigé la faille. Combien de temps c'est demeuré en ligne? J'ai aucune idée. Mais les informations étaient à ce moment-là accessibles à quiconque, sans petit tour de magie ou de script, à quiconque accédait au formulaire web.
Alors, ce qui est fou, c'est que c'est des fuites et des failles qui sont super courantes. C'est marrant, cette fuite hein, de la Banque Nationale. On a eu le même cas en France pendant l'été, où une grande enseigne de distribution de meubles a fait un concours, mais le concours était sur des tablettes dans chaque magasin. Et en fait, toutes les personnes qui souhaitaient participer devaient rentrer leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur mail. Et en fait, en surfant dans la tablette, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, on tombait sur les informations des joueurs précédents.
Mais c'est fascinant, c'est des vieux problèmes technologiques qu'on aurait dû régler à l'heure actuelle. Là. C'est très fascinant à quel point on répète les mêmes erreurs depuis très très longtemps. Mais en même temps, il faut regarder les aspects positifs. Le ministère de la Santé et Santé en France est quand même en train de mettre des choses en place intéressantes.
Ouais, tout à fait. En France, il faut savoir que, comme je vous l'explique assez souvent, donc nous, on a une nouvelle loi qui va se mettre en place, hein, ce nouveau règlement dédié aux données personnelles. Et donc, de plus en plus d'entités, d'entreprises, en tout cas étatiques, sont en train de faire de manière à non seulement solliciter toutes les personnes qui travaillent pour elles, mais aussi tous les partenaires de confiance. Et le ministère de la Santé vient de mettre en place, là, le 1er octobre 2017, une cellule d'accompagnement cybersécurité des structures de santé. En gros, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, hein, c'est un portail qui permet de déclarer les incidents de sécurité concernant les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les infirmières. Bref, ils ont eu un piratage, une infiltration, un ransomware, une fuite de données. Eh bien, maintenant, les professionnels de santé peuvent et ont un lieu dédié pour alerter, pour signaler, pour en tout cas recevoir non seulement des aides rapides et efficaces, parce qu'on sait très bien qu'un médecin comme une infirmière, comme une clinique, comme un kinésithérapeute, sont pas des professionnels de l'informatique. Et donc, du coup, je trouve ça génial, c'est que le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé de mettre ça en place. Alors, c'est pas fou non plus, c'est que ça va permettre de se protéger à partir du mois de mai prochain de toute potentialité malveillante de pirates, par exemple, qui voudraient s'attaquer aux bases de données. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant qu'en France, ça soit mis en place. Alors, c'est un modèle qui existe déjà aux États-Unis, hein, mais du coup, ça permet aussi de montrer que les ministères prennent aussi par la main des gens qui ne sont pas des professionnels de la sécurité et surtout qu'ils admettent que ça peut toucher tout le monde.
Ben, c'est justement, il faut assurer justement que les gens qui sont un peu moins connaissants, dans le fond, l'ensemble de la population est moins connaissante, qui sont correctement accompagnés avec ça, puis les professionnels de santé sont des personnes qui manipulent régulièrement les informations les plus sensibles sur les individus dans lesquels, en général, on ne veut pas qu'ils soient couramment diffusés.
Ouais, donc du coup, c'est parfait. Ça va permettre justement à toutes ces populations de professionnels qui ont la vie de numérique, mais aussi physique, de population, qui leur fournissent leur nom, leur prénom, certes, mais aussi le numéro de sécurité sociale, qui leur fournissent aussi s'ils sont malades, les médicaments qu'ils prennent, etc., etc., sachant qu'en plus, on arrive de plus en plus dans ce qu'on appelle la médecine connectée. Hein, ça veut dire la personne va rentrer, par exemple, le matin pour une petite opération bénigne, le soir, elle est chez elle, mais elle sera équipée de capteurs. Donc, tout ça doit se protéger. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, ce genre de solution d'aide, de soutien, c'est parfait.
Oui, je devrais en parler à ma dentiste chaque fois que je vais me faire brosser les dents. L'ordinateur est toujours ouvert dans chacun des bureaux et puis on voit l'horaire entier de la clientèle avec toutes les informations personnelles, sans écran de veille et rien. Alors, j'essaie de les éduquer, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. L'écran de veille, ça prend un mot de passe pour réactiver la session. C'est agaçant pour tout le monde, mais bon, si un jour je décide de les poursuivre parce que mon information s'est retrouvée sur les internets, comme tout le monde dit, ben ça risque d'être la première personne à qui je vais penser, chez qui la fuite aurait pu survenir.
Mais ça, il y a une énorme négligence. Oui.
Alors, j'allais dire, moi, ce que je te propose, c'est quand tu vas chez ta dentiste, tu y vas avec une pince et dès que tu vois tes informations, tu lui arraches une dent.
Mais de toute façon, pour moi aussi, mon expérience chez le dentiste, il y a une énorme négligence au niveau de l'exposition des informations des autres clients. Puis même à la limite, en tant que client, c'est déjà une chose que mes informations sont sensibles, mais mes informations dentaires ne sont pas, grave qui soit plus ou moins diffusé, mais sur la base de savoir que quelle est la clientèle d'un dentiste pour la voler à l'autre, ça peut devenir un peu embarrassant pour les dentistes. Mais la négligence, ces gens-là, ils ne sentent pas ce que c'est. Mais puis pour faire un peu du pouce pour l'élément d'accompagnement que le ministère de la Santé fait, en même temps, il y a quand même eu du phishing qui s'est fait là, au niveau des citoyens.
Ouais, c'est ça, justement. On reste dans la santé. Il y a eu un phishing. Alors, des phishing, des filoutages, des hameçonnages, il y en a des centaines par jour. Mais le dernier que j'ai détecté, que j'ai un petit peu gratouillé, c'est assez étonnant. D'abord, il visait ce que nous, on appelle l'assurance maladie. En gros, c'est une assurance qui permet à la population d'être remboursée certaines sommes, justement, si je vais chez mon dentiste. Et le phishing était basique, hein. C'est bon, voilà, ils se font passer pour cette assurance maladie et, demandent login, mode passe, données bancaires, enfin bref, du grand classique. Sauf que ce qui était beaucoup moins classique, c'est qu'ils sont passés par un site d'un gouvernement. Alors, c'était le gouvernement du Bangladesh. Certes, c'est pas un pays qui est le plus connu dans la sécurité informatique, mais ça montre que les pirates sont prêts à tout. Hein. Donc du coup, ils ont pu profiter d'un HTTPS qui allait bien, d'un référencement loin d'être négligeable. Après tout, ça restait un point .gouv, donc plutôt sympathique. Et puis surtout, ils s'étaient amusés à faire un espèce de sous-domaine qui, pour les gens qui ne sont pas obligatoirement bien au courant du fonctionnement d'un URL, d'un nom de domaine, en tout cas d'une adresse web, était facilement usurpatrice. Donc voilà, donc le phishing en lui-même pas terrible, mais toute la structure d'attaque qui a été mise en place, aurait pu piéger n'importe qui. Alors je vais être honnête avec vous, hein, nous on a carrément démonté l'attaque du gars, hein, jusqu'au point qu'on a retrouvé son mail de pirate. Alors ce que j'adore moi, c'est que ce genre de pirate passe par Gmail. Il faudra leur expliquer qu'ils sont facilement remontables à partir de Gmail.
Ben, tout est facile dans ces choses-là. C'est ça que les traces sont quand même assez phénoménales. Mais ton point étant qu'on est capable de tromper facilement les gens, puis c'est un problème qui est assez important parce que notre structure pour comprendre le lien de confiance dans le numérique n'est pas très facile. Puis il y a juste la preuve de voir comme CCleaner qui était fait, qui est distribué par Avast, s'est fait complètement reprendre par des mauvais esprits.
Alors oui. Toujours en septembre, on dirait qu'avant le mois de la cybersécurité, le mois d'octobre, on dirait que septembre, il y a un blitz, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Oui, des pirates ont intercepté CCleaner, l'exécutable en fait d'installation. Et puis, pour une raison inconnue, mais de piraterie. Ils ont récupéré le code source que les gens utilisent pour l'installation et puis ils ont injecté du code malicieux. Lors de la divulgation du problème, 2,27 millions d'utilisateurs pourraient avoir été infectés, mais selon une intervention rapide des opérateurs d'Avast, ben il semble que selon eux, ils ont corrigé la situation. Probablement ce qu'ils ont fait, ils ont dit on va fonctionner au son. Fait que si ça chigne pas, on a corrigé la situation. Si ça chigne, ben, on se protégera contre d'éventuelles poursuites. Je ne sais pas. Je ne connais pas la suite des choses, mais la nouvelle a été étouffée assez rapidement.
Alors, ce qui est intéressant, en plus, dans cette attaque, c'est que ça visait, en plus, d'énormes sociétés, que ces CCleaner, c'était 2 à 5 millions de téléchargements par mois. C'est fou. On se dit que le cheval de Troie était tout trouvé.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait penser un petit peu au podcast que Nicolas et moi on a fait après le DEFCON au début du mois d'août avec justement le fonctionnement du fameux Windows Server Update Services où les signatures puis la disponibilité de nouvelles mises à jour sont distribuées via un canal sécurisé. Toutefois, l'exécutable de ces correctifs-là Microsoft les distribue sur des serveurs dont il n'y a aucun lien de sécurité. Donc, il s'agit juste qu'un pirate intercepte l'exécutable, donne le même nom, a la même taille du fichier et la rend disponible. Notre système va trouver le premier serveur du bord et puis voilà, on s'infecte à la maison, on s'infecte au bureau, on infecte le WSUS aussi à l'interne, à la compagnie.
Mais on se retrouve toujours dans les systèmes où les liens de confiance qu'on établit de façon à la limite aveugle, parce que la nature humaine fait qu'on va établir des liens aveugles de confiance, fait qu'en informatique ou en numérique, on est capable de les réutiliser pour ou contre les gens finalement pour les infecter ou pour ultimement leur soutirer de l'argent, parce que la finalité, les crimes organisés s'étant insérés là-dedans, c'est vraiment juste l'argent qui compte, là.
Oui, tu as raison. Autre petite nouvelle qui est passée rapidement, encore au mois de septembre, Car Tracking Devices. La compagnie SVR Tracking, c'est une compagnie externe qui pose des modules de détection de voitures, en fait de GPS, sur les voitures. Compagnie externe privée, en fait, pour lesquels leur clientèle, c'est des gens qui ont peur de se faire voler leur voiture ou qui veulent retrouver leur voiture rapidement si ça s'est fait voler. Alors, ces gens-là utilisaient les services AWS pour le stockage d'une immense base de données contenant le détail, justement, d'un demi-million de ses clients. La base de données, qu'est-ce qu'elle contenait? Bien, elle contenait le nom, l'information personnelle des clients possédant un tel dispositif sur la voiture et enregistrait également les déplacements des véhicules. Alors, quelqu'un d'assez ferré pouvait, pour un véhicule donné, prendre l'historique de ses déplacements et puis de profiler, en fait, un moment où la personne n'est pas à la maison ou à l'extérieur pour dévaliser une maison, par exemple, etc. Alors, on n'a pas beaucoup entendu parler d'une suite à cette faille-là, en fait, à ce vol de données-là. Toutefois, ils ont expliqué que c'était un vieux modèle de chiffrement basé sur le SHA-1 qui était employé pour chiffrer la base de données et puis qui a pris probablement quelques secondes à déchiffrer. C'est dommage, mais la vieille technologie avec des nouvelles méthodes contre ces technologies-là, ben ça fait pas bon ménage. On va perdre à tout coup.
Bon, on revient encore dans le contexte où si ça marche bien, on ne change rien. Donc, on est toujours dans un problème parce que si ça fonctionne bien, les gens n'auront pas tenté, là, comme on voyait dans le motto des opérateurs de réseau. Ça marche bien, on ne touche pas parce que c'est pas brisé. Mais le fait que ça se brise par dégradation naturelle parce que les algorithmes ne sont plus bons avec le temps, parce que les décisions de programmation deviennent moins bonnes avec le temps, fait que les gens se font pincer par ce genre de problème-là. Ce qui est un peu malheureux. Puis en plus, dans le cas de Car Tracking, c'est des gens qui ont probablement beaucoup plus de moyens, fait que ce sont des cibles très intéressantes pour les bandits, puis aller leur soutirer un peu plus d'argent. Mais en parlant d'argent, Deloitte aussi s'est fait coincer dans une chose qui est un peu plus gênant.
Ouf! Oui. Je vais résumer rapidement. 25 septembre dernier, bon, Deloitte fait une divulgation. Probablement que l'affaire a été exploitée pendant au moins une année. Le serveur de courrier électronique Deloitte aux États-Unis, en fait, il doit en avoir plusieurs, mais il y a un des serveurs de courrier électronique qui est chez un fournisseur de services tiers là, dans l'info nuagique. Et puis, ce serveur-là est employé notamment par les gros bons là, de chez Deloitte, là, les associés seniors qui ont une clientèle très sélecte. On va parler de Lockheed Martin, Boeing et compagnie. Alors, le serveur de courrier s'est fait pirater, mais carrément à la source. Paraîtrait qu'une session RDP était restée ouverte et que l'opérateur a tout simplement mis fin à sa session. Mais la technologie en place faisait en sorte que, malgré tous les outils disponibles, aucune authentification à deux facteurs était employée pour les comptes au privilège. On va parler ici du compte administrator. Et c'est ce qui devait arriver. La session RDP est restée ouverte. Quelqu'un s'est connecté sur l'IP et puis voilà. Ni vu ni connu. La personne a puisé des données, lu des courriels, a eu accès à une information extrêmement privilégiée. Et puis c'est drôle, quand j'ai récupéré la nouvelle le 25 septembre dernier, ça s'est malheureusement dégradé au fil des semaines. On en apprenait toujours un petit peu plus. Un autre petit problème, puis un autre petit problème. Bon, là, on les comprend. Equifax et compagnie, dans toute sa mêlée, dans toute cette mêlée-là, probablement qu'il y a un paquet de compagnies aux États-Unis qui ont fait appel à des pentesteurs professionnels. Et puis là, c'est malheureux, mais les mauvaises nouvelles sortent, notamment Deloitte. Est-ce que Deloitte s'est réveillé et ils se sont rendus compte qu'ils étaient piratés depuis un certain temps? Est-ce que c'est dans cette foulée-là? Aucune idée, mais ça va pas bien pour Deloitte, là, depuis il y a quelques semaines. Moi, ça fait le tour des nouvelles. J'en ai pas plus pour Deloitte. Là, j'entends une balle rebondir, là, mais personne ne la rattrape, là.
C'est ça. Je pensais que Daniel allait commenter la nouvelle de...
Ah, du tout.
Ça l'intéresse pas finalement, Deloitte. C'est de la petite chose parce que, dans le fond, Damien va préférer parler des attaques sonores qu'il y a à Cuba.
Ouais, non, mais si, c'est très intéressant, mais ça montre que toutes ces grandes entreprises, à force de prendre leur informatique comme un simple objet qu'on éteint à 17h, 18h, 19h, en tout cas quand on a fini la journée, ça prouve que on est quand même en danger, hein, nous qui sommes dans leur base de données. Alors ouais, justement, tiens, petite information, ça c'est pour nos auditeurs qui voulaient en savoir un petit peu plus sur le projet de loi qui parle justement des données, c'est la C-78, la loi modifiant la loi sur l'accès à l'information, la loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence. Voilà, donc ça c'était la petite aparté pour ceux qui étaient intéressés sur justement la loi sur les données personnelles au Canada. Alors ouais, je vais finir moi sur deux actualités qui traitent de l'armée américaine, parce que ce qui est très étonnant, c'est que justement en ce mois de la cybersécurité un peu partout dans le monde, on apprend alors que les soldats américains sont des cibles privilégiées et les diplomates. Alors je vais commencer d'abord par ces diplomates américains, mais il y a aussi les diplomates canadiens qui se sont plaints depuis quelques semaines, quelques mois, eh bien de mal de tête, de maux de tête, pardon, de vomissements, de nausées. Et il y a une enquête en cours depuis le mois d'août 2017, où en fait les services de renseignement se demandent si des canons à son ne sont pas utilisés pour rendre malades les diplomates. Alors c'est quoi ces canons à son? Ça existe, hein, c'est des Long Ranger Acoustic Device. Ça existe depuis maintenant quasiment les années 2000. On avait entendu parler de ces canons à son en 2005 en Somalie, ensuite en Irak. En 2009, c'était lors du G20 de Pittsburgh, où la police avait utilisé les premiers canons à son qui permettaient de disperser des foules, hein, donc ça ne faisait pas vomir, mais en tout cas suffisamment bruyant pour perturber les manifestants. Et lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, l'armée avait carrément confirmé, hein, posséder ce type de canon. Alors qu'est-ce qui se passe à Cuba? On n'en sait vraiment pas grand-chose, hein, parce qu'on se doute bien que les services de renseignement ne poseront pas toutes les informations sur la table. Ils ont quand même été dire que c'était pas Cuba qui les attaquait, mais qu'ils se posaient des questions si les extérieurs ne venaient pas jouer, ou en tout cas perturber les bonnes relations qui se mettent en place tout doucement, très très lentement entre les deux pays. On peut se poser aussi la question, c'est est-ce que les canons qui sont utilisés et cachés dans l'ambassade ne sont pas défectueux aussi? On pourrait se poser des questions sur ce genre de choses. Enfin voilà, je trouvais que cette forme d'attaque informatique était plutôt intéressante parce que un canon à son, aujourd'hui, on peut trouver des plans dans le black market permettant de s'ouvrir à ce genre de nouvelles technologies. Voilà, donc je trouvais ça assez étonnant. Autre étonnement de ma part, et je finirai sur ça, c'est pareil, là cette fois-ci, c'est le département de la défense aux États-Unis qui s'inquiète de quoi? Eh bien, des téléphones portables de leurs soldats. On apprend que les 4000 soldats basés pas très loin des frontières russes ont été attaqués. Par quoi? Par de dangereux pirates qui ont réussi à trouver leurs adresses mail et certains ont été piégés. Donc du coup, ça permet à partir de leur téléphone portable de savoir où ils se trouvent. Donc on comprend l'idée de la géolocalisation. On comprend l'inquiétude du département de la défense américaine en se disant « Oh mon Dieu, mes soldats sont détectés ». Mais les gars, vous trouvez normal, vous, qu'ils aient leurs iPhone, leurs Samsung ou je ne sais trop quel téléphone dans leur poche, branché avec le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth? Vous voulez pas faire non plus des petites flammes avec des petits drapeaux? Donc voilà, donc je trouve ça assez étonnant. C'est le Wall Street Journal, hein, qui a sorti l'information. Je trouve ça quand même très, très étonnant de se dire qu'on a 4000 soldats qui ont leur téléphone. Et attention, les attaques, elles sont dignes, je sais pas moi, des dangereux espions de la Corée du Nord, d'après l'OTAN, parce que c'est donc les soldats travaillant pour l'OTAN en ce moment. C'est par du phishing qu'ils ont été attaqués. Donc ça veut dire qu'en plus, les mecs lisent peut-être leur mail au moment sur des terrains d'opération. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant, cette forme de communication. On est à la limite du troll, mais ça montre aujourd'hui que les nouvelles technologies sont vraiment partout, même dans des endroits où, franchement, le téléphone portable devrait même pas s'y trouver.
C'est un peu fascinant que l'armée tolère, en tout cas, en apparence, ça a l'air d'être des téléphones personnels plus que des téléphones de fonction. Puis ça serait étonnant, d'ailleurs, que des téléphones de fonction soient aussi facilement attaquables que ça par des ennemis, mais en supposant en tout cas des ennemis, en tout cas des unités adverses. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les téléphones cellulaires sont rendus à un degré d'infiltration dans nos vies qui, dans certains cas, peuvent être même dangereux pour la vie, certaines vies humaines, parce que ces gens-là, c'est contre eux, se divulguent dans l'univers, donc on est capable de les retracer, puis leur signal cellulaire, que ça leur... C'est invisible, là. C'est comme, c'est justement comme tu sais, un petit drapeau. Les tours, c'est l'heure autour. Il s'agit que ce soit une tour ennemie. Ils vont savoir exactement où sont localisés. Il y en a trois. Oups, triangulation. Puis on sait exactement où sont les gens de l'OTAN dans ce cas-ci. Ou de n'importe quelle unité militaire qui se promène avec des téléphones personnels dans un champ de fonction, ce qui est complètement fou. Là.
Oui, puis ce qui est quand même dingue aussi, c'est qu'on se dit que. Alors, les pirates ont réussi à trouver les 4000 adresses mail des soldats, donc ça, bon, ça se trouve comme ça, facilement, sur les internets. Ensuite, j'imagine bien le soldat face à l'ennemi en train de jouer Angry Bird. Enfin voilà, moi je me méfie tout le temps, en fait, que quand l'armée communique, alors qu'on l'appelle la grande muette, dès qu'elle communique, c'est qu'obligatoirement, elle veut passer un message autre que celui qu'on veut bien lire.
Moi, j'aime bien l'exemple de Nicolas qui parle justement de tours relais qui seraient tout simplement des je vais appeler ça des fake towers. C'est une belle, comment je dirais ça, c'est une belle contre-mesure de guerre. Je peux pas croire que, comme Nicolas le disait, là, ou comme toi, Damien, tu le dis, on va à la guerre, on est sur le terrain, le téléphone cellulaire, c'est un champ de trois en soi, là, ça a pas d'affaire dans nos poches, là. La fake tower, justement, c'est une belle contre-mesure, justement, extrêmement simple à utiliser. Je ne peux pas croire que l'armée américaine n'a pas pensé à ça, là.
Mais bon. Je veux pas dire non plus, hein, mais quand on voit certaines images de militaires, mais pas obligatoirement américains, qui se filment avec leur GoPro, par exemple, c'est juste oublier que la GoPro fournit aussi l'emplacement GPS.
Effectivement. Je pense qu'on. Ces babelles-là font partie de nos vies. On peut plus s'en passer, faut croire.
Wow, on doit sous-estimer énormément à quel point ces périphériques-là font une invasion dans nos vies privées, dans un contexte où on vit quotidiennement, où on n'a pas de fonctions qui sont excessivement graves, on ne devient pas des cibles nécessairement face à ce genre de choses-là. Mais dans un théâtre de guerre, c'est plus les mêmes genres de choses. Mais à la limite, même la police ou les... La police anti-manifestants aussi sont des cibles potentielles puis qui sont pas, c'est pas, faudrait pas qu'ils soient exposés pour rien.
Quand tu vois qu'avant on s'inquiétait de nos femmes et de nos belles-mères pour la cybersurveillance, aujourd'hui maintenant on doit même s'inquiéter de son téléphone.
Oui, puis souvenons-nous aussi, hein, on est tous jeunes là encore, mais tous ces appareils-là électroniques étaient au départ de la R&D pour de l'utilisation militaire, selon moi. Les communications satellites, les communications cellulaires, la majorité de ces technologies-là, ça a été développé pour l'armée, mais l'armée, je sais pas si c'est la mémoire courte qu'ils ont, mais bon, je mettrai pas mon opinion.
Tout ça est très intéressant. Ça va être une matière à réflexion, savoir comment on devra intégrer nos différents périphériques technologiques qui sont très verbeux dans nos vies. Ça va conclure l'épisode qu'on a cette semaine. Très dense, très gros épisode avec beaucoup de contenu très intéressant. Pour les Chemist Plug, les Call for Paper est fermé pour le Hackfest. On va avoir un événement au courant du mois d'octobre. Inscrivez-vous, il va y avoir des sujets super intéressants, dont Damien qui va être parmi nous encore une fois cette année. Super intéressant. Il va même initier sa fille au Hackfest, ce qui est encore là, quelque chose de spectaculaire.
Et n'oubliez pas de sortir la poutine.
Ah non, ça c'est sûr qu'on n'oubliera pas. Puis il y en a partout, il y en a toutes sortes de très bonnes poutines qu'on a au Québec. Donc ça conclut. Messieurs, bonne semaine.
Bonne semaine à tout le monde. Et n'oubliez pas cette petite phrase en cybersécurité. L'idiot regarde le doigt qui montre la lune.
Bonne semaine.
Salut tout le monde. Ciao.